Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Dans 10 minutes, priorité santé, question de femmes. Mais d'abord, le journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Juan, bonjour à tous. À la une, Los Angeles qui part en fumée. Des méga-feux encerclent la cité des anges. Bilan au moins 10 morts. Le quartier de Pacific Palisade est ravagé. Ses habitants en colère. Reportage à suivre. Nous irons aussi en Syrie où les combats font rage. Dans le nord, entre Kurdes et pro-turcs, 37 morts sur la seule journée d'hier. Au sommaire, également des dizaines de milliers d'Autrichiens dans les rues hier pour dire non à un chancelier d'extrême droite. Les négociations ont débuté dans le pays en vue de former un gouvernement. Et puis les mineurs et ouvriers du charbon en colère. Ils craignent en Pologne pour leurs emplois avec les fermetures successives des centrales. Ils manifestaient hier à Varsovie. Nous étions dans le cortège. Près de 10 000 bâtiments partis en fumée, au moins 10 morts. La Californie fait face, selon Joe Biden, aux incendies les plus dévastateurs de son histoire. Los Angeles, plongé dans un épais nuage de fumée et encerclé par plusieurs feux hors de contrôle, contre lesquels lutte sans relâche 7 500 pompiers, bientôt aidés par 400 renforts militaires. Preuve de l'ampleur de cette catastrophe, 180 000 personnes sont concernées par un ordre d'évacuation. Le reportage sur place pour RFI de Loïc Piala.
John Turtletaube marche dans les ruines d'une crèche de Pacific Palisades, celle de ses trois enfants. Les sièges des balançoires ont disparu, de petites flammes brûlent encore. Un choc pour ce réalisateur de grosses productions hollywoodiennes.
Beaucoup de gens disent que ça ressemble à un décor de cinéma, et c'est vrai que ça ressemble à des scènes de films à gros budget. Mais dans ces films, ce sont toujours des effets spéciaux. Là, nous ne sommes pas dans un film, les films ne sont que des images en deux dimensions.
Face à l'ampleur de la dévastation, beaucoup mettent en cause la gestion des autorités locales. Paul est l'un d'entre eux, le jeune homme a perdu sa maison.
La sévérité de ces feux aurait pu être évitée de mon point de vue. Écoutez, c'est impossible d'arrêter tous les feux de forêt. Mais il n'y a eu aucun effort de prévention, il n'y a eu aucun plan stratégique pour des pare-feux. Je ne comprends pas. Ils connaissaient les dangers de cet épisode venteux et personne n'avait de plan apparemment. Il y aura un prix politique à payer pour ça.
48 heures après le départ du feu, le Palisades Fire continue de progresser. Mais avec des vents moins forts, les pompiers ont pu compter sur deux Canadair. Les avions ont multiplié les allers-retours entre le Pacifique et les flammes. Loïc Piala, Pacific Palisades, RF.
Et le gouverneur démocrate de Californie est dans le viseur de Donald Trump. Il le qualifie de rebut. Donald Trump, qui va devenir aujourd'hui le premier président élu des États-Unis, a écopé d'une sanction pénale. La Cour suprême a rejeté hier son recours contre le prononcé de sa peine prévue aujourd'hui à New York. Donald Trump reconnu coupable dans l'affaire des paiements dissimulés pour acheter le silence de l'actrice de film X, Stormy Daniels. Verdict attendu à 14h30, temps universel. Coup de théâtre en Corée du Sud, le chef de la sécurité du président déchu Yoon Suk-yeol a démissionné. Annonce ce matin, c'est son équipe qui avait empêché son arrestation vendredi dernier par les enquêteurs. Plus tôt, il avait appelé à empêcher toute effusion de sang en cas de nouvelle tentative d'interpellation. Yoon Suk-yeol qui a tenté il y a plus d'un mois d'imposer la loi martiale. Midi, bientôt 4 à Damas en Syrie où le chef de la diplomatie italienne a entamé ce matin une visite. Un enquêteur des Nations Unies est aussi arrivé hier pour investiguer sur les crimes de guerre et les autres violations de la législation internationale sur les droits humains depuis 2011. Dans le nord de la Syrie, le chef de la diplomatie turque assure ce matin avoir la capacité et la détermination pour éliminer les menaces sécuritaires. Au moins 37 personnes sont mortes hier dans des affrontements entre Kurdes et pro-turcs selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Reportage sur place de l'envoyé spécial de RFI, Manon Chaplin.
À l'entrée de leur quartier général, les factions de l'armée nationale syrienne se relaient. C'est ici que les combattants se retrouvent avant de partir sur le front, quelques kilomètres plus à l'est, à proximité du barrage de Tishrin. Un groupe se prépare à partir, monte à l'arrière d'un pick-up transformé en canon anti-aérien. Abu Djouma, leader d'une faction de 200 hommes.
Hier, nous avons pris environ 5 villages et y avons établi des positions. Les combats étaient violents, mais dans quelques jours, si Dieu le veut, nous passerons de l'autre côté, à l'est de l'Euphrate. J'ai été blessé, mais je je préfère cacher ma blessure pour qu'elle ne soit pas visible aux yeux des autres. Il faut que le moral reste bon.
À l'abri, ce combattant pense ses plaies avec un bandage, puis jette un regard vers le ciel. Des avions de reconnaissance turcs qui font des allers-retours, mais le sujet est sensible parmi les troupes qui feignent de ne pas recevoir de soutien turc.
Ni la Turquie, ni personne ne nous soutient. Personne ne nous a donné la moindre balle. Nous nous en remettons à nous-mêmes, grâce aux efforts de nos jeunes et aux munitions, aux armes que nous saisissons. C'est seulement grâce à ça que nous combattons nos ennemis.
Il y a 4 jours, la Turquie qui accuse les forces démocratiques syriennes d'avoir des liens avec les séparatistes armés kurdes sur son sol a menacé de lancer une opération militaire dans la zone. Au total, près de 322 personnes sont mortes depuis le début des combats, il y a un mois. Manon Chaplin à Manbij, RFI.
Et toujours au Proche-Orient, le commandant en chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, élu président hier alors que le pays est en pleine paralysie politique depuis 2 ans. Il s'est engagé à mener rapidement des consultations pour nommer un premier ministre. Il a aussi promis de respecter l'accord de trêve avec Israël. L'armée israélienne qui a annoncé ce matin avoir identifié le corps d'un otage qui était retenu dans la bande de Gaza 2 jours après le rapatriement de la dépouille de son père retrouvé dans un tunnel de la région de Rafah. En Autriche, ils étaient 50 000 selon les organisateurs, 25 000 d'après les autorités à manifester hier contre l'extrême droite. Le FPE et les conservateurs sont maintenant aux portes du pouvoir. Les négociations ont officiellement commencé hier en vue de former un gouvernement. Isoria, c'était dans le cortège pour RFI. Reportage.
La lumière de leur téléphone pointée sur la chancellerie, des milliers d'Autrichiens font entendre leur mécontentement. Des huées pour dire non à l'extrême droite, dont Véronica, jeune retraitée, dénonce la normalisation en Autriche.
Je trouve très dangereux de voir que dans notre société, l'extrémisme de droite est désormais au centre. Plus personne n'a honte, les gens s'habituent si vite. J'ai peur pour notre démocratie, je ne veux pas que les choses se passent comme en Hongrie.
L'extrême droite a déjà participé à des gouvernements, mais jamais en tant que partenaire majoritaire. Les choses seraient différentes cette fois-ci car le FPE est en position de force, ce qui inquiète grandement Inès, étudiante.
Je crois que de nombreuses libertés individuelles sont menacées. C'est le cas pour les personnes de la communauté LGBTQ, pour toutes les personnes issues de l'immigration, pour les femmes, mais aussi pour tous les groupes sociaux défavorisés.
Autre motif d'inquiétude pour les manifestants comme Félix, le profil très radical d'Herbert Kickl, le chef du FPE, qui pourrait accéder à la chancellerie.
Kickl a parlé de garder les réfugiés dans des centres de manière concentrée, rappelant ainsi l'un des chapitres les plus terribles de notre histoire. Quelqu'un qui est prêt à polariser de la sorte, à provoquer avec de tels mots, est, je crois, prêt à beaucoup de choses.
Les Autrichiens présents se disent prêts à manifester à nouveau ces prochains jours pour faire pression et empêcher un gouvernement entre conservateurs et extrême droite. Isorias, Vienne, RFI.
Au Venezuela, c'est aujourd'hui que le président sortant Nicolas Maduro doit prêter serment pour un 3e mandat au lendemain de manifestations de l'opposition qui conteste son élection, crie à la fraude et revendique la victoire d'Edmundo González Urrutia. Colère également en Pologne, où ouvriers de l'industrie du charbon et mineurs venus de tout le pays ont convergé hier vers Varsovie pour protester contre les fermetures successives des centrales à charbon dans la région minière de Silésie. Les normes écologiques européennes poussent pour une sortie du charbon à marche forcée et cela inquiète les employés. Le reportage d'Adrien Sarla.
Comme un baroud d'honneur dans les rues de Varsovie. La centrale à charbon dans laquelle travaille Piotr devait fermer à l'horizon 2030, mais le groupe énergétique PGE a avancé l'échéance à l'année prochaine. Lui travaille depuis 36 ans et s'inquiète pour son avenir.
On ne sait même pas si on va pouvoir avoir du travail demain. Est-ce qu'on prévoit de nous transférer, nous et notre savoir-faire, dans une autre entreprise? J'espère qu'ils vont pouvoir nous assurer que personne ne perdra son emploi. Mais pour l'instant, ils ne nous disent rien.
Les ouvriers l'affirment, la Pologne n'est pas encore prête à se passer du charbon. La construction de la première centrale nucléaire du pays a à peine commencé et le réseau d'infrastructures d'énergie renouvelable reste insuffisant. Andjai estime que ses collègues et lui sont victimes du pacte vert élaboré par Bruxelles.
Pour moi, l'Union européenne est allée trop loin sur les questions de transition énergétique. On a fait des efforts et des investissements colossaux pour rentrer dans les standards européens. Et aujourd'hui, alors qu'on s'est mis aux normes, l'Europe déclare qu'il faut nous fermer. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ?
Ces dernières années, la fermeture progressive des mines n'avait pas mené à une baisse de la consommation de charbon. Varsovie s'était contentée d'importer ce qu'elle ne produisait plus du Kazakhstan ou d'Australie. Chaque année, les Polonais continuent d'en brûler plus de 7 millions de tonnes pour chauffer leur foyer. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
Et il est 10h10 à Varsovie et Paris, 9h10 en temps universel. Tout de suite sur RFI, vous retrouvez Caroline Paré avec Priorité Santé.